rare, Vincent Souriau.
Donald Trump a choisi la manière forte, excédé par les annonces chinoises. Il y a quelques jours, la Chine a pris des mesures inédites, des restrictions d'exportation qui touchent...
Radio G. 101.5 FM.
Cours d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découvertes littéraires. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis à 9h10 au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonjour et bienvenue sur la deuxième émission consacrée au roman « Engrenage et sortilège » d'Adrien Thomas. Lors de la première, nous avions découvert le personnage de Grise et rapidement de Cyrus, qui ont échappé de peu à une tentative de kidnapping. Si vous n'avez pas encore écouté la première émission, je vous invite à la retrouver sur radio-g.fr, rubrique « Voix au chapitre » dès maintenant. À la fin de l'émission précédente, Grise, notre héroïne, se prend un sort paralysant. Entre l'extrait de la semaine dernière et celui que je vais vous lire aujourd'hui, elle se réveille dans une auberge avec Cyrus, qui l'y a amené pendant qu'elle était inconsciente, soi-disant pour la protéger. Grise lui demande des explications et lui laisse l'opportunité de la convaincre de ne pas retourner à l'académie. On se retrouve après ce nouvel extrait. Bonne écoute sur Radio G. Chapitre 7. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que nous cacher dans ce taudis est plus intelligent que rentrer à l'académie ? Assise en tailleur sur le lit de Cyrus, Grise caressait distraitement Kint, qui ronronnait avec force. L'ésotéricien s'était quant à lui installé sur un petit fauteuil près de la fenêtre et se mordillait les lèvres indécis. « Eh bien ?» insista la jeune fille. « Qu'est-ce que tu penses d'hier soir ?» Grise haussa les sourcils, surprise de cette entrée en matière. Comment cela ? Qu'est-ce que nos ravisseurs t'évoquent, en termes de capacité, de compétences, d'organisation ? La mécanicienne réfléchit un instant avant de répondre. Ils avaient l'air dangereux. Je veux dire, je sais que nous nous en sommes débarrassés assez facilement, mais quelque chose me dit que nous avons eu beaucoup de chance. Si j'avais été dans mon lit plutôt que dans la cour... La fin de sa phrase se perdit dans un long frisson. Cyrus changea de position dans son fauteuil. Quoi d'autre ? Eh bien, ils avaient préparé leur coup. Ils savaient exactement où nous chercher, à quoi nous ressemblions. Ils se sont renseignés à l'avance sur nous, nos habitudes, notre personnalité. Grise rougit, se souvenant soudain que Cyrus était conscient dans son sac qu'en femme feutrée l'avait décrite en des termes peu flatteurs. Une tête d'œuf trop obsédée par la mécanique pour s'intéresser aux garçons. Quelque chose dans ce goût-là. Mortifiée, elle secoua la tête pour chasser cette pensée. Cyrus acquiesça doucement. « Pas d'autre ?»« À toi de me le dire !» s'agaça Grise. « C'est à toi de me convaincre, je te signale, pas l'inverse !» Le jeune ésotéricien leva une main apaisante. « Très bien, tout ce que tu as dit est vrai. Nos ravisseurs étaient dangereux, organisés et préparés. Leur équipe comportait même un mage entraîné et puissant, ce qui est, j'imagine, excessivement rare au sein de la pègre. » Ces types étaient de vrais professionnels, pas des malfrats à la petite semaine. Le genre de criminels de haute volée que seule une poignée de gens extrêmement riches ou influents peuvent se permettre d'engager. Ce qui signifie que nous avons un ennemi très puissant qui tenait absolument à nous extraire de l'académie contre notre volonté et possédait les moyens de le faire. La mécanicienne retint un nouveau frisson. elle était parvenue plus ou moins aux mêmes conclusions. C'est déjà très inquiétant en soi, poursuivit Cyrus. Mais ce n'est pas le pire.
Ah non ?
Non. Le pire, c'est qu'il se trouvait en pleine nuit, au sein de la forteresse la plus sûre de l'Empire, sans avoir déclenché la moindre alerte. Tu as dit toi-même qu'il s'agissait de professionnels, et qu'ils avaient un mage avec eux. C'est vrai, mais tu as une idée du nombre d'alarmes mécaniques à contourner, d'enchantements à dissiper, et de glyphes de protection à effacer pour entrer et sortir de l'académie ? Or, ils s'y sont introduits sans problème. Tu le fais bien, toi, non ? Quand tu fais le mur pour venir dans cette gargote ? Il m'a fallu des mois pour trouver un chemin qui me permette d'éviter les alarmes mécaniques et trouver les formules pour dissiper les ésotérismes un à un. Sans compter que la plupart des enchantements ne s'activent pas à mon passage parce que je suis reconnue comme élève de l'académie. Or, je doute que nos quatre affreux possèdent une carte étudiant. Gris fronça les sourcils. Où veux-tu en venir ? Il y a deux possibilités. Soit nos ennemis sont suffisamment puissants, préparés et doués pour pénétrer dans l'école la mieux protégée du continent sans déclencher la moindre alarme, soit ils ont un complice à l'intérieur qui les a fait entrer. Et même s'ils semblaient, comme tu l'as dit, extrêmement compétents, je penche pour la deuxième hypothèse. La jeune fille déglutit. C'est pour ça que tu ne veux pas que nous retournions à l'académie ? Oui. Je pense que notre sécurité là-bas est définitivement compromise. Même si nous y retournions et que les professeurs renforçaient encore les systèmes de protection magique et mécanique, nous restons vulnérables à un autre sabotage venu de l'intérieur et à une nouvelle tentative d'enlèvement, réussie cette fois. Je ne sais pas, grimaça Gris. Je pense que nous devrions tout de même demander de l'aide à Maître Yosefir. C'est un ami de mon père. Il pourrait mener l'enquête et nous protéger, qu'il y ait ou non un traître à l'académie. Les quatre affreux l'ont dit eux-mêmes, ils n'ont aucune envie de se retrouver face à des automates de combat si jamais nous parvenions à leur échapper. Je les ai entendus moi aussi, acquiesça Cyrus. Mais ça ne fait justement que prouver qu'il s'agit d'une mauvaise idée. Ah oui ? Et pourquoi donc ? Renifla Gris, un peu vexée. Cyrus perçut l'agacement de sa camarade et tenta de se défendre. Pardon, je n'assigne pas que ton idée est... Enfin, je ne voulais pas prétendre... Mon maître veut simplement dire qu'il est désolé de ses capacités diplomatiques dignes d'un char d'assaut enflammé dévalant une pente, ronronna Kint, toujours affalé sur les genoux de Grise. La jeune fille éclata de rire, Cyrus fronça les sourcils. Merci de ton soutien sans faille, cher familier. À ton service, maître. Là où je voulais en venir, c'est que nos ravisseurs s'attendent forcément à ce que nous allions réclamer de l'aide à Yosefir. Or, pour le moment, rien ne prouve qu'il soit de notre côté. La mécanicienne haussa un sourcil dubitatif. Souviens-toi, leur mot exact était que si nous parvenions à leur échapper ce soir-là, le primarque n'aurait pas d'autre choix que de renforcer la sécurité. La jeune fille pinça les lèvres. C'était juste une manière de parler ? Je n'en suis pas certain. Après tout, qui mieux que le directeur pour désactiver discrètement toute la sécurité ? Sérieusement, loussa Grise. Maître Yosefir, complice de malfrats venant enlever ses propres élèves. Tu crois vraiment que le primarque le plus prestigieux de ces lombres risquerait sa réputation et celle de l'académie tout entière en laissant des bandits s'introduire chez lui sous son nez ? Si la récompense est suffisante, pourquoi pas ? Répliqua Cyrus. Gris fronça les sourcils. Récompense ? De quoi est-ce que tu parles ? Tu penses qu'on nous a enlevés pour obtenir une rançon de nos parents ? Ou pour faire pression sur eux, oui ? Acquiesça Cyrus. J'imagine que ta famille est riche ou qu'elle bénéficie d'une position privilégiée dans les cercles de pouvoir impériaux. Gris n'y avait pas encore vraiment réfléchi. Elle se mordit la lèvre, songeuse. Non, pas vraiment. Mon père est rattaché au corps d'ingénierie impériale, c'est vrai, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup d'influence. Il n'aime pas trop aller au palais et il déteste la politique. Attends, ton père est un ingénieur d'État ? Ça me rappelle quelque chose. Ce ne serait pas cet ingénieur xamoréen à qui l'impératrice a fait un pont d'or pour qu'il vienne travailler pour elle ? Elenzo Olonga, oui, c'est lui. Il me semble que ma mère m'a dit qu'il était très respecté au sein du corps. Mais il est vrai que les ingénieurs d'État n'ont pas une grande influence politique. Et question fortune ? Gris haussa les épaules. Je suppose que notre patrimoine familial est plutôt confortable, un ingénieur d'État est bien payé, mais je connais au moins 10 autres filles dans mon dortoir dont les parents sont bien plus riches ou influents que mon père. Ma couchette est entre celle de la fille aînée de la comtesse Bralk et celle de l'unique héritière des industries Valois, pour te donner un exemple. Ça doit être plus compliqué que cela dans ce cas, répliqua Cyrus. Il doit forcément y avoir une autre raison. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le roman Engrenage et sortilège d'Adrien Thomas. Bonne écoute! Toutes ces théories sur le pourquoi du comment, c'est très bien, Sagaça Grise. Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi nous n'irions pas prévenir la garde de cuivre, leur raconter ce qui nous est arrivé hier? Ils pourront peut-être faire quelque chose, ouvrir une enquête, mettre des avis de recherche pour les quatre affreux, nous permettre de regagner l'académie en sécurité. C'était précisément mon intention. Il y a un poste de garde à quelques rues d'ici, je comptais m'y rendre dans la matinée pour raconter notre mésaventure et exiger que nos ravisseurs soient activement recherchés. Très bien, je viens avec toi. Proposa Grise. Hors de question. Quoi ? Protesta la jeune fille. Pourquoi pas ? Moi, je peux me servir de l'illusionnisme pour me déguiser, me fondre dans la foule. Si nos ravisseurs ont des guetteurs dans la ville, ils ne me remarqueront pas. Toi, en revanche... Et il jeta un regard insistant sur sa peau sombre, sa masse de cheveux et sa salopette blasonnée. Grise se renfrogna. Je suis désolée, grimaça Cyrus, mais les Xamoréens ne sont pas fréquents à ces Londres. Et... comme je te l'ai dit, je ne pourrais pas maintenir durablement une illusion sur toi. Je comprends, soupira Grise. C'est juste frustrant de ne rien pouvoir faire. Je déteste être passive. Tu as enseveli deux criminels sous une pluie de livres et assommé un troisième à coups d'automate, rappela Cyrus. Ce n'est pas ce que j'appelle être passive. Tu t'es occupé presque seul de notre libération. Laisse-moi m'occuper de la suite. Grise cligna des yeux, surprise. Elle n'était pas habituée à ce que Cyrus Vorocle se montre aussi prévenant. Comme s'il venait de réaliser qu'il avait écorné sa précieuse image d'ésotéricien arrogant, Cyrus se leva avec raideur de son fauteuil. « Allons-y, Kint. Allons-y, Kint. Grise, nous devrions être venus d'ici une heure. Ne bouge pas d'ici. » Le primarque Joséphir se concentrait sur la correction des copies d'élémentalisme des élèves de sixième année quand il fut arraché à ses pensées. Sur son bureau, derrière l'amas de copies encore non corrigées, venait d'apparaître une faible lueur rosée. Le vieil homme saisit le paquet de devoirs et le déplaça, libérant un gros cristal habituellement transparent, mais qui émettait en ce moment une faible lueur rose. D'une pensée, le mage lut la signature énergétique du sortilège et son humeur s'assombrit. Encore ? Il hésita. Peut-être pouvait-il l'ignorer et prétendre ensuite qu'il n'était pas à son bureau lorsque l'enchantement s'était déclenché. Mais le cristal se mit à scintiller de plus en plus fort, jusqu'à ce que le vieux mage de guerre lasse fasse un léger signe de la main pour accepter la communication. Aussitôt, la lumière rose enfla et ondula, jusqu'à prendre l'apparence éthérée d'un visage chauve et mince, aux yeux durs et aux joues fripées. « Primarque Joséphir, » grimaça la voix froide de la tête flottante. « Ô ésotéricien vizir, » répondit le vieux mage sans plus d'enthousiasme. « Je vous dérange ? Vous ne me dérangez jamais, votre grâce. »« Très bien. Avez-vous du nouveau sur l'affaire qui nous préoccupe ?» Joséphir retint un soupir. C'était la sixième fois que le premier conseiller de l'impératrice le contactait à ce sujet. Toujours pas. Je vous ai dit que je vous tiendrai informé si je trouve quelque... Si ? L'interrompit Vézir. Si ? Pas si, Joséphir. Quand ? Quand vous les aurez trouvés ? Dois-je vous rappeler à quel point il est inadmissible qu'ils aient pu disparaître de votre école ? Avez-vous la moindre idée du genre de pression que l'Empire tout entier aura à subir si l'on apprend qu'une académie impériale laisse ses étudiants s'évaporer dans la nature ? Croyez-vous que je l'ignore ? Répliqua sèchement Joséphir. Croyez-vous que je ne tiens pas autant que vous à retrouver mes élèves ? Mais je n'ai aucun moyen pour... Aucun moyen ? Ou pas, Vézir ? Vous êtes directeur d'une académie qui croule sous les subventions impériales. Et vous êtes primarque de Célombre, membre du conseil dirigeant de la cité tout entière. Est-ce que vous vous moquez de moi ? Ce n'est pas une question de moyens physiques, Vézir, mais d'opportunité. Vous me liez les mains. Vous ne me laissez pas contacter la garde de cuivre pour les retrouver ou annoncer la nouvelle aux autres primarques. Personne ne doit avoir connaissance de ce qui est en train de devenir un secret d'État, siffla Vézir. Le risque que la garde soit incapable de tenir sa langue est beaucoup trop grand. À ce sujet, j'espère que vous avez averti vos enseignants et vos étudiants que discuter de l'absence de ces jeunes gens est très vivement déconseillé. Oui, j'ai prévenu que des sanctions seraient prises envers quiconque serait surpris à évoquer cette affaire en et hors des murs de l'académie. Excellent. Nous n'avons aucune envie que la situation soit rendue publique. Imaginez la une de la Gazette. Des adolescents arrachés à leur chambre d'étudiants et l'académie et l'Empire échouent ensemble à les retrouver. Non, je veux que vous les retrouviez discrètement. Contrairement à ce que vous semblez penser, je n'ai pas beaucoup de relations dans les quartiers les plus populaires de Célombre, protesta Yosefir. Et les quelques enquêteurs privés de la ville sont d'innommables incompétents. Le risque qu'ils laissent échapper l'information est encore plus fort qu'avec la garde. Que voulez-vous que j'y... Laissez-moi au moins contacter quelques hauts gradés de la garde de cuivre. Eux, au moins, concevront l'importance du secret. Ils pourront peut-être solliciter leurs propres contacts sur le terrain pour les retrouver. Le visage chiffonné de Vézir se plissa encore davantage, tandis qu'il réfléchissait. « Très bien, » admit-il, « mais uniquement sous la supervision directe de nos agents spéciaux. Vous voulez dire la police secrète ?» sursauta Yosefir. « Comme vous le savez, ils sont déjà sur place, » répliqua Vézir. « Ils prendront bientôt contact avec vous. Je vous envoie leur dossier. » La lumière rose s'intensifia violemment, forçant Yosefir à détourner le regard. Puis la lumière décrut et le primarque constata qu'une pochette rouge contenant une dizaine de feuillets s'était matérialisée au sommet de sa pile de copies. Le vieux mage les feuilleta. Il s'agissait des dossiers des agents en question, ainsi que leur ordre de mission. « Nous comptons sur vous pour les assister dans leurs tâches autant que possible, » reprit Vézir. « Évidemment que je les aiderai. Je vous l'ai dit, je tiens à retrouver mes élèves sains et saufs, comme nous tous, » grinça le magicien fripé. « Avez-vous des informations au sujet d'Elonzo, de votre côté ? C'est un ami et j'aurais aimé savoir si... Toute information concernant l'ingénieur d'état Olonga est classée confidentielle, » coupa sévèrement Vézir. « Sécurité intérieure de l'Empire. J'espère que vous comprenez. » Yosefir acquiesça doucement. Le haut ésotéricien plissa les paupières. « L'impératrice attend des résultats rapides, » remarque. « Ne la décevez pas. »« Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, » promit Yosefir. « Excellent. Gloire à Sarenzia. » Gloire à Sarenzia. L'image du haut ésotéricien se dissipa et le cristal retrouva sa transparence. Yosefir émit un profond soupir, secoua la tête, puis tenta de se replonger dans ses corrections. Mais le cœur n'y était plus. Il reste encore beaucoup d'aventures pour Grise et Cyrus et je vous invite à aller les découvrir par vous-même. Engrenage et Sortilège est disponible en librairie, aux éditions Rajot. C'est un roman qui parle de magie et technologie, mais surtout d'amitié, de réussir à travailler ensemble malgré ses différences, d'apprendre à prendre du recul sur ses préjugés et parfois faire la paix avec ceux que l'on considérait comme nos ennemis. Il saura intéresser les jeunes tout comme les plus vieux, en recherche d'un peu de magie pour s'évader le temps d'un livre. Je vous plongerai plus tard dans l'année, de nouveau dans cet univers, avec un roman du même auteur. Vous pouvez toujours retrouver les deux émissions dédiées à ce roman sur radio-g.fr et suivre les prochaines sorties d'émissions sur la page Instagram Voix au chapitre. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle découverte qui pourrait donner vie aux idées et métaphores d'un tableau bien étrange. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end!
Radio G. www.radio-g.fr